internationale aussi, ça mérite aussi ces sujets-là, ces investissements-là aussi, de clarifier la situation avec les pays qui investissent chez nous. On sait que l'Arabie Saoudite ou le Qatar, c'est pas quand même les rois de l'égalité femmes-hommes, par exemple.
Et c'est un sujet, une bonne partie de notre dette, d'ailleurs.
Voilà, exactement. C'est un sujet.
Et là-bas, il n'y a pas de droit du sol.
Voilà. Donc, ce sujet-là pays, pourrait mériter aussi, mériterait aussi de poser ces réflexions-là et de aussi de se poser. La France, cinquième puissance mondiale, quatrième ou cinquième.
Plutôt septième.
Elle reste quand même puissante. Oui. Se poser aussi sur l'échiquier et envoyer des messages forts aussi. Au moment où, où arrive le président américain sans scrupules et avec une légitimité aussi, puisqu'il a été élu
largement.
Largement. Voilà, et ça, personne ne peut le contester. Donc, à nous de réagir. Je pense que l'intelligence artificielle, ne pas le considérer comme, encore une fois, ce que j'ai cité un exemple avec un peu d'humour, même si il faudra être vigilant, mais on a les moyens de contrôler ça. Et si je dois reprendre aussi, refaire une analogie, je repense aussi à tout ce qui a été vidéosurveillance, etc., et où on a pu entendre tout et n'importe quoi, et l'un dans l'autre, bon, c'est des sujets sur lesquels il va falloir investir.
Donc il ne faut pas rater ce rendez-vous. C'est ce que je comprends. Pour résumer, Bruno aussi, alors vous avez dirigé une université, donc j'imagine aussi que c'est un sujet que vous suivez de près.
Oui, c'est un sujet évidemment qui est un sujet d'avenir, l'intelligence artificielle. Il ne faut pas que l'Europe rate le coche, si vous voulez, parce que sinon on sera extrêmement dépendant des gens qui vont contrôler les centres de données, les data centers.
On l'est déjà sur les réseaux sociaux.
Donc, c'est une évolution, une révolution, si on veut, technologique, qui va modifier considérablement, ça va accélérer encore le mouvement de modification des échanges et surtout du contrôle de l'information. Or, l'information, c'est quelque chose de stratégique, tout le monde le sait. Et celui qui contrôle l'information peut contrôler beaucoup de choses dans la vie des gens. Donc, c'est une chose qu'il ne faut pas rater. Pourquoi est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu dans ce défi, alors que l'Europe est en train de prendre du retard, et donc il faut absolument faire quelque chose, et la France a une épingle à jouer. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a de très bons centres de recherche universitaires dans les domaines de l'informatique, qui malheureusement font des études chez nous, ce qui coûte cher aux contribuables français, et quand ils sont productifs, ils partent aux États-Unis, où finalement la France a généreusement fait cadeau de gens très très bien formés à la grande puissance américaine, ou alors c'est pareil avec les Chinois, il y a les Chinois qui viennent se former ici, qui rentrent chez eux. Bon. Donc, tout ça, c'est un peu dommage, et évidemment, si on a l'intelligence pour le faire, il y a d'autres choses qu'il faut. Il faut aussi construire ces fameux data centers. Donc, c'est des investissements colossaux. Évidemment, ceux qui payent, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., il ne faut pas croire qu'ils le font sans intérêt. Hein, ce n'est pas pour nos beaux yeux.
Personne
donc,
ne donne de l'argent.
Donc, c'est évidemment un souci, quand même. Un souci. C'est bien beau de dire on va investir, mais enfin, ce n'est pas nous qui investissons. C'est des puissances étrangères qui investissent chez nous pour contrôler l'information. Qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Vous voyez, ça, moi, ce n'est pas facile à contrôler. Hein, vous avez dit c'est facile à contrôler, je crois que c'est pas du tout facile à contrôler. Essayez de les contrôler, même ce Musk, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Donc, et en plus, ils ont créé des monnaies qui empêchent qu'on les contrôle par la monnaie. Hein, les fameux bitcoins, c'est une façon d'échapper au contrôle des monnaies. Donc ça peut quand même porter un problème. Et puis, il y a un troisième aspect à la question, c'est ces data centers consomment énormément d'énergie, énormément. Et évidemment, les Américains, eux, ont énormément de pétrole, est en train de relancer la production de pétrole. Les Chinois fonctionnent au charbon, ils construisent des centrales à charbon tous les jours, ils se sont assis sur l'écologie depuis pas mal de temps. Et les Français, ils ont une carte à jouer avec le nucléaire, que n'ont pas les Allemands, parce que les Allemands, malheureusement, pour eux, ont renoncé au nucléaire, et maintenant, ils ne savent plus comment produire, ils n'ont plus le gaz russe, et ils sont complètement piégés et l'économie allemande, c'est un problème pour l'Europe, est en train de tomber en panne à cause de ce problème de l'énergie. Donc la France, heureusement, on a un programme nucléaire qui fonctionne. On a un programme nucléaire à venir qui va être construit. Je pense que les écolos là-dessus vont continuer à s'exciter, mais c'est quand même
c'est
une énergie.
Gauche, hein. Les communistes sont pour le nucléaire.
Mais tout le monde est pour. Il y a quelques soi-disant écolos. C'est un parti, l'écologie. Hein. C'est pas les, les écolos, il y en a partout. Ils ont préempté le mot écologie. Donc il y a ce petit parti écolo qui fait 5 à 6% des voix les bonnes années aux élections qui va s'exciter, mais je crois que la caravane va avancer, si vous voulez. On est obligé de faire ça. Sinon, on ne peut pas faire ces data centers. C'est aussi simple que ça. On ne le fera sûrement pas avec des éoliennes ou avec des plaques photovoltaïques. Donc voilà, la France a des atouts en main. Le président Macron a raison de mobiliser là-dessus. Le souci, c'est de garder son indépendance. Ça me paraît la chose la plus compliquée.
Les investissements étrangers, ça vous fait un petit peu peur quand même.
Bah, si oui, parce que moi, je ne crois pas que les gens viennent ici investir pour nos beaux yeux. Quoi.
Alors, on va laisser quand même parler à Alice Carré, d'autant plus que les écologistes ont été un peu pointés du doigt. Et donc, parce que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu aussi au niveau environnemental, avec des bons et des mauvais côtés. Alors, comment vous vous positionnez sur cette question ?
Tout à fait. Alors, moi, je pense que c'est effectivement c'est un grand enjeu pour l'avenir. Et d'ailleurs, vous avez parlé du coup de ce sommet qui avait lieu à Paris. Et moi, j'aimerais parler du contre-sommet d'intelligence artificielle qui a été organisé par David Cormand aussi. Donc, David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, enfin les écologistes maintenant.
En parallèle, au Grand Palais.
Et donc, ça s'appelait ce contre-sommet réinventer l'intelligence artificielle pour une révolution numérique au service de l'humain et de la planète. Voilà.
C'est des grands mots. Hein.
C'est des grands mots, mais derrière. Effectivement, comme vous l'avez dit, on voit que l'intelligence artificielle, ça a un coût humain, ça a un coût énergétique. Hein, on en a parlé aussi, les data centers, par exemple,
c'est
20% du réseau électrique irlandais. C'est quand même énorme hein, comme chiffre. Il y a 35 centres en France qui peuvent potentiellement être construits. Voilà, donc c'est aussi... l'intelligence artificielle, ça pose aussi quand même énormément de questions sur nos libertés, la démocratie,
sur des questions
l'avenir
éthiques,
des emplois, hein, ouais. etc. Notre souveraineté, hein, vous en avez parlé. Alors bon, moi j'aimerais répondre sur peut-être le nucléaire.
Vas-y.
Puisque le nucléaire, je ne pense pas que ça soit l'indépendance en fait, énergétique, puisque pour avoir de l'uranium, il faut aller dans d'autres pays.
Non mais il y a beaucoup d'uranium.
C'est quand même dépendre aussi derrière d'autres personnes. Et puis, enfin, d'autres pays, il y a aussi des conflits qui peuvent entrer en jeu. Donc voilà, je pense pas que le nucléaire nous permette d'être garant de notre souveraineté.
Non, mais les data centers sans le nucléaire, on n'en fabriquera pas. Hein.
Voilà, donc il y a quand même c'est un coût énergétique énorme, un coût environnemental, et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des institutions qui se portent un peu garantes de l'intelligence artificielle, de la manière dont ça va évoluer, et qui proposent aussi des actes un peu pour encadrer tout ça. Ça, je pense que c'est vraiment très très important d'y réfléchir. On a parlé aussi des jeunes derrière, les jeunes qui sont très sensibles à tout ça, qui peuvent, ça peut générer chez eux de la dépression, voire aller jusqu'au suicide. Hein. Il y a eu des exemples récents de jeunes qui se retrouvaient exposés énormément à des vidéos de suicide parce qu'ils avaient ou elles avaient des pensées dépressives.
Bon, ça, c'est encadré les réseaux sociaux et tout ça.
Mais après, moi, je peux vous parler peut-être un peu plus personnellement parce que moi, je travaille dans le support scientifique à la recherche à côté de ma vie politique. Et effectivement, en faisant de la recherche, des fois, on utilise de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je fais de l'océanographie spatiale. Donc, des fois, ça nous aide en fait un peu à déterminer certaines choses.
Donc, ça peut avoir de bons côtés
pour
des activités
mais
comme
par
la
contre,
vôtre.
Voilà, pour certaines activités, mais pour d'autres, c'est vraiment très gênant, notamment quand il y a de l'interaction avec de l'humain. Moi, je pense que c'est pas possible de se dire on remplace les humains, on remplace la relation humaine avec de l'intelligence artificielle.
Quand vous parlez d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle, il faut que ce soit des institutions qui le fassent. Vous pensez à qui ? À l'Union européenne ?
Voilà, tout à fait. Par exemple, l'Union européenne, je pense que c'est le bon niveau pour essayer d'encadrer, d'avoir des éléments communs entre tous les pays par rapport à ça.
Mohamed Mafri, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, juste rajouter. Je pense que là, on a un virage politique au sens noble du terme, à ne pas rater.
Bah ça, c'est une question très politique.
Oui, très politique, en matière d'écologie, notamment. Parce que moi, je suis pro-nucléaire, je le cache pas. Voilà. Et pour moi, c'est une approche écologiste. En tout cas, c'est la meilleure approche, en tout cas sur le côté énergivore de l'IA. Et M. Cyril l'a dit tout à l'heure, mais j'ai presque envie de l'approfondir. On voit l'Allemagne s'écrouler, alors que l'Allemagne, qui quand même était la locomotive écologiste depuis plusieurs années, s'écroule, revient même au charbon. Nous, la France, on a tout intérêt. à travers la coopération internationale, même si je suis d'accord avec vous, ce ne sera pas simple de gérer les deniers étrangers, mais il n'empêche, on ne pourra pas y échapper. Donc il va y avoir en amont ces coopérations-là. Après, c'est au rapport de force politique qui va se jouer. N'oublions pas que quand même ces pays-là, le Qatar, l'Arabie Saoudite, ont besoin de nos armes. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on pourra travailler, on pourrait aussi approfondir. Je reviens sur la partie écologique. Là, pour moi, et c'est un message envoyé aux jeunes, pour moi aussi, c'est de dire aussi, oui, notre pays est soucieux de sa politique énergétique et écologique. Ça va peut-être pas plaire, en effet, à certains partisans de notre mouvement, mais je pense qu'à mon avis, l'approche nucléaire, et sur ce sujet-là, on a l'avantage d'avoir un bilan plutôt positif, même s'il y a eu quelques ratés, mais il est quand même plutôt positif. Et travailler sur ce sujet-là et être tête de gondole, moi, il me semble que ne pas rater le virage de l'IA tout en ayant une posture écologiste positive, ça serait quand même, ce serait des bases intéressantes pour la dynamique européenne.
Voilà, bon, alors on fera sans doute un débat sur ces sujets prochainement, parce que là aussi on n'a pas fini d'en parler, de toutes ces questions sur le développement d'intelligence artificielle, y compris en France. C'est la fin de cette 182e Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à tous les trois d'en avoir été les invités. Merci aussi à Coraline Camebra qui a encore une fois assuré la réalisation de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à tous les fidèles auditeurs de cette émission. À la semaine prochaine.
Fidélité sur la région de Mayenne, 107.5. écoutez sur la région de Mayenne 107.5.
Un tour de France de l'art préhistorique par Aude Larmé. Un programme Maurice Clément Fèvre. L'art de la préhistoire est un art mystérieux, secret, caché, vieux de plusieurs millénaires. Nous avons la chance, en France, de pouvoir encore admirer certaines de ces œuvres qui ont traversé les siècles. Je vais vous parler aujourd'hui d'une sculpture réalisée par l'homme il y a 32 000 ans. L'homme lion, dont vous pouvez voir de vos propres yeux une copie au musée Forum de l'Aurignacien, à Aurignac. Dans le village de Aurignac, dans les Pyrénées, on découvre en 1860 un abri sous roche qui regorge de matériel préhistorique. On y trouve des pointes de sagaie en bois de renne, du silex taillé. Ici, pas de peinture, pas d'art pariétal, mais le lieu est tellement important qu'il devient un site éponyme. Le site d'Aurignac devient un site éponyme. Éponyme, alors, ça veut dire qu'en préhistoire, on définit une période à partir du site qui a permis de mettre en évidence les traits d'une culture commune. Ainsi, on parle de sites aurignaciens pour des sites découverts dans toute l'Europe. On connaît des sites aurignaciens en Allemagne, en Italie et dans toute l'Europe jusqu'en Turquie. Ça veut dire que dans ces autres sites, on considère que la manière de tailler la pierre, de faire des armes, mais aussi la manière de faire de l'art et en général de vivre, répond à une même norme, un même style, une même culture. L'Aurignacien, c'est la dernière période du Paléolithique supérieur. C'est une période qui s'étend entre 42 000 ans et 28 000 ans avant aujourd'hui, avant le présent. C'est une période ancienne qui voit l'apparition de l'espèce Sapiens sapiens en Europe. C'est la première période où l'homme moderne est présent en France. Et c'est une période aussi où on s'aperçoit d'une disparition progressive de l'homme de Néandertal. Et c'est aussi à cette période précisément que les premières formes d'art reconnues apparaissent. C'est par exemple à cette période aurignacienne qu'ont été réalisés les dessins et les peintures de la grotte Chauvet. Pour se rendre un petit peu plus compte du nombre d'années écoulées, il faut bien réaliser qu'il y a plus de temps qui sépare les artistes de la grotte Chauvet et ceux de la grotte de Lascaux que de temps qui sépare les peintures de Lascaux et nous. Chauvet a été peint il y a 32 000 ans et Lascaux il y a 17 000 ans. 17 000 ans seulement. Donc la période aurignacienne est considérée comme la période qui a été le berceau de l'art, où l'on trouve les premières représentations picturales dans les grottes. Dans le musée d'Aurignac, une pièce vient témoigner de ces toutes premières pratiques artistiques. Il s'agit d'une copie de la statue de l'homme lion. L'homme lion. Merveilleuse histoire que celle de l'homme lion. L'homme lion a été découvert dans la grotte de Hohenstein-Stadel, en Allemagne. C'est une statue qui mesure environ 30 cm de haut et elle est sculptée dans de l'ivoire de mammouth. Les morceaux de la statuette ont été découverts cassés, en fouille, en 1939, à la veille de la guerre. Et à cause de cette date, les fouilles se sont arrêtées. Le lion aurait pu rester, en pièces détachées, dans un fond de tiroir, pour toujours. Mais par bonheur, en 1888, ces pièces sont étudiées, un peu au hasard finalement. On trouve des morceaux dans un tiroir, on étudie ces pièces, et ces pièces sont remontées, c'est-à-dire comme un puzzle. On les reconstitue en 1988. C'est donc en reconstituant ce petit puzzle que l'on découvre la statue de l'homme-lion de Hollenstein Stadel. Alors en 2010, on réentreprend des fouilles à l'entrée de la grotte qui permettent de compléter cette statuette. Et aujourd'hui, la statuette de l'homme-lion est remontée à partir de 300 fragments d'ivoire de mammouth. L'homme-lion représente un être hybride, c'est-à-dire un être avec un corps d'homme et une tête de lion. Ce personnage se tient debout. Alors le lion n'a pas de crinière. Donc cette absence de crinière, de prime abord, on pourrait penser plutôt que c'est une lionne. Mais aujourd'hui, on sait que les lions des cavernes n'avaient pas de crinière. Ce n'était pas tout à fait la même espèce. Les lions d'il y a 32 000 ans n'avaient pas de crinière. Donc lion, lionne, impossible de savoir réellement. L'homme lion frappe par son élégance, il attire notre regard. L'homme lion nous hypnotise. L'homme lion nous étonne par le symbole qu'il véhicule encore aujourd'hui. On connaît d'autres exemples d'êtres hybrides dans l'art préhistorique. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, de mélanger une figure humaine à une figure animale. Mais si les mythes de nos ancêtres ont disparu avec eux, le lion est encore, aujourd'hui, un animal symbolique très fort. En fait, sans en avoir plus aucun code, aucune grille de lecture, la statue de l'homme-lion nous émeut toujours, 32 000 ans plus tard. C'est une porte ouverte vers l'imaginaire, une main tendue vers nos ancêtres, vers nos rêves de petits garçons, de petites filles, vers nos origines. Un jour, j'ai montré une image de l'homme-lion à un ami qui n'est pas du tout préhistorien, mais qui travaille sur Héraclès. Donc Héraclès, le héros grec. Il travaille sur les traces du mythe grec laissé aujourd'hui. Quand il a vu l'homme-lion, il s'est écrié « Mais regarde, c'est une représentation d'Héraclès. C'est un homme avec le lion de Némée sur les épaules. » Alors, évidemment, j'ai d'abord ri. Et puis, même s'il est peu probable que l'homme-lion puisse avoir la même symbolique pour un chasseur, cueilleur, aurignacien, il y a 32 000 ans, que pour un grec, il y a à peine 3 000 ans, pourquoi ne pas se permettre de franchir les barrières du rêve? Beaucoup plus proche de nous, en 2018, l'artiste Abraham Poincheval vient à Aurignac. C'est un artiste qui fait des performances, un artiste d'art contemporain. Donc cet artiste, il construit une copie de l'homme-lion dans un énorme tronc d'arbre. C'est une sculpture en bois qu'il creuse afin de pouvoir s'y glisser. Il construit un homme-lion de 2 mètres de haut, pensé comme un écrin qui peut contenir un homme de chair et de sang dans ses entrailles, à l'intérieur de la statue. La statue est installée près du musée d'Aurignac, sur un sentier qui mène à l'abri sous roche. Et durant 7 jours et 7 nuits, l'artiste Abraham Poincheval s'enferme dans le lion de bois. Cette démarche a beaucoup questionné les gens du village, les gens alentour. Elle peut paraître vaine, futile pour certains, faire sourire d'autres. Elle peut paraître n'avoir aucun rapport avec la science préhistorique. Mais elle dit une chose, c'est que depuis 32 000 ans, l'homme-lion fait partie de notre bestiaire symbolique à tous. Vous venez d'écouter Un tour de France de l'art préhistorique par Aude Larmé. Un programme Maurice Clément Fèvre.
Fidélité sur la région de Château-Gontier 107.5.
Histoire de Mamie Clo, imaginée, écrite et racontée par Marie-Clotilde Maubert.
Toujours prête. Il faudrait trouver des bonnes volontés pour nous aider. Oui, bien sûr, répond Mère Abbesse, mais qui ? Oh, j'ai bien une petite idée derrière la tête. « Ça ne m'étonne pas outre mesure, » reprend Mère Abbesse en riant. « Et quelle est ton idée, sœur Anne-Marie ?»« Les scouts. »« Les scouts ? » ?»« Oui, j'ai été cheftaine assez longtemps pour savoir qu'un des 5 buts du scoutisme est précisément le sens du service. »« Et tu crois que des scouts accepteraient de venir passer quelques jours à l'abbaye pour nous rendre ce service ?»« Mais j'en suis sûre !»« Bien. » Avant de lancer le projet, nous en parlerons mercredi avec toutes les sœurs. « Ça va marcher !» dit sœur Anne-Marie, confiante. Sœur Anne-Marie est pour ainsi dire le factotum de l'abbaye dans laquelle elle est entrée toute jeune il y a 20 ans. Non seulement elle a obtenu avant son arrivée un CAP de menuiserie, mais elle est également la reine du système D, comme on dit. D comme des brouillardises. Et elle est chargée des travaux. L'abbaye, comme tous les monastères et comme beaucoup de familles, compte ses sous. Et il n'est pas toujours facile d'envisager des travaux. que l'on ne pourra pas financer. Bien sûr, le bon Saint-Joseph se charge bien souvent de trouver des solutions pour ses sœurs qui lui font totalement confiance. Mais comment dormez-vous tranquille ? A demandé il y a quelques mois l'entrepreneur venu pour un gros chantier. Vous démarrez les travaux sans savoir comment vous allez payer les factures. Oh ! A répondu sœur Anne-Marie rassurante. Nous avons de quoi payer le premier tiers, vous savez. Oui. Et comment ferez-vous pour les deux autres tiers quand le moment sera venu ? Comme d'habitude, nous demanderons à Saint-Joseph et il nous exaucera. Et Saint-Joseph avait accordé la somme nécessaire, au centime près, pour la plus grande perplexité du chef d'entreprise. Au centime près, dites-vous, ma sœur ? Oui, avait répondu sœur Anne-Marie, nous lui avions demandé juste de quoi financer cette dépense. Il sait compter, cet homme-là, vous savez. Ben, dis donc. Mais vous auriez pu demander plus, puisqu'il vous l'accorde. Ah non ! Nous ne demandons que ce qui est nécessaire, lorsque c'est nécessaire. Là, il était absolument nécessaire de mettre aux normes handicapées ces quelques chambres et la petite salle à manger pour nos sœurs aînées. C'est un cas de force majeure, donc Saint-Joseph a été mis à contribution. Mais nous essayons souvent de nous débrouiller par nous-mêmes pour les menus travaux d'entretien. Là, c'est sûr, ce sont ce que notre sœur appelle des menus travaux qui vont nécessiter la venue de bonne volonté. Les sœurs envisagent de nettoyer, que dis-je, de récurer tellement ces salles, peindre et aménager un local qui n'a plus servi depuis pas mal d'années. Il y a du travail, mais rien d'insurmontable. C'était jadis une salle qui tenait lieu de parloir, mais très peu commode pour cet emploi, car elle est située quasiment au fond du grand jardin. Elle avait été abandonnée au profit du parloir actuel. Il y a l'électricité et un poêle à bois qui tire toujours aussi bien. Mais comme la nature a horreur du vide, des vieilleries y ont été entreposées au fil des ans. Des sapeux, comme dit Mère Abbesse. Entendez, des sapeux toujours servir. Deux sœurs sont en charge de l'atelier reliure, qui a dû laisser sa place pour réaliser le chantier suscité. Pour le moment, elles travaillent dans une cellule, mais ça n'est pas l'idéal, l'endroit étant exigu. Alors, sœur Anne-Marie a fait le tour de la propriété en réfléchissant, puis elle en a parlé à Mère Abbesse et à la sœur économe qui sont venues inspecter le local. Mercredi soir, la réunion est animée. Certaines sœurs adhèrent complètement et immédiatement au projet. Oh, quelle bonne idée ! C'est bien de faire confiance aux jeunes. Oui, et ils ont de l'énergie à revendre. Oui, ça va aller vite. Et ils pourront participer à certains offices. D'autres, par contre, ont poussé de grands cris. Comment ? Des scouts à l'abbaye ? Et la clôture, alors ? Mais quand des ouvriers viennent faire des travaux, ils entrent dans l'abbaye. Oui, mais pas une troupe de jeunes garçons, quand même. Ils seront à l'autre bout du terrain. Ils ne gêneront personne. Quand même, dit une sœur âgée. Lorsque je suis entrée, moi, jamais, on aurait toléré une chose pareille. Bref, l'affaire est mal embarquée, comme on dit. À la fin du débat, sœur Anne-Marie dit « À la place de scouts, ce pourrait être des guides. » Dans la salle du chapitre, on sent une nette décompression, un relâchement, un apaisement. Les sœurs récalcitrantes sont soulagées et la sœur économe échange un clin d'œil avec sœur Anne-Marie. Ouf, sauvée par les guides. Aussitôt dit, aussitôt fait, sœur Anne-Marie se renseigne afin de récupérer les coordonnées de la cheftaine actuelle de la compagnie dont elle-même avait fait partie dans le temps. Lorsqu'enfin elle se présente au téléphone et explique le motif de son appel, elle s'entend répondre « Oh ma sœur, c'est la Providence qui vous envoie !»« Ah bon ?»« Oui, les guides doivent camper une semaine lors des vacances de février et j'ai justement une cheftaine de patrouille qui se désespère car elle ne trouve pas de lieu à sa convenance. Il faut dire qu'elle est un peu difficile. Je vais pouvoir lui donner un coup de pouce. « Notre abbaye n'est pas trop loin de chez vous, ça ira ?» demande sœur Anne-Marie. « Aucun souci, elles prendront le train. » Bon, et ensuite, elles pourront attraper le car qui passe à quelques